Voilà une question qui nous préoccupe, enfin qui nous préoccupe en tout cas pour aujourd'hui. La question que nous nous posons est celle-ci. Être chrétien, une vie d'obligation ? Point d'interrogation. Entre guillemets, est-ce que la vie chrétienne est une vie d'obligation ? Alors on va faire un petit... Voilà, je vais poser la question maintenant et on va lever les mains. Est-ce que pour vous, vous pensez que la vie chrétienne est une vie d'obligation ? Ceux qui disent oui, levez les mains. Ah, il y a des mains qui se lèvent. Ne vous inquiétez pas, rien de grave. Et pour vous autres, je crois que vous avez tous levé les mains, c'est ça ? Et qui dit non à cette question ? Ah, donc il y en a plein qui sont neutres. Vous êtes neutres, vous autres, c'est ça ? C'est ça qu'il faut comprendre ? Alors, je vais vous donner un texte de l'apôtre Jean. Quand j'ai pensé à cette question, j'ai pensé à cette réponse de l'apôtre Jean qui dit ceci. Aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci, d'ailleurs, sont pénibles. Ah, ne sont pas pénibles. C'était pour voir si vous suiviez. Jean explique ici à ses lecteurs croyants que l'amour envers Dieu et obéir à ses commandements ne sont pas deux choses, mais la même chose. Nous aurions tous cette tendance à dire que l'amour et les commandements ne vont pas du tout ensemble. Comment est-ce possible d'aimer avec quelque chose de contraignant comme des commandements ? On me commande de faire quelque chose. Oui, mon commandant ! Le dictionnaire Le Robert dit ceci, il définit le terme « obligation » ainsi, « ce qui contraint une personne à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. » J'ai trouvé ce dessin très, très parlant. Mais qui dit « commandement » dit qu'il y a une liste d'obligations. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. C'est écrit, non ? Donc, c'est bizarre que l'apôtre Jean nous dise qu'aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. En plus, Jean ajoute que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Pour Jean, en fait, c'est très clair. La vie chrétienne n'est pas une vie d'obligation selon cette définition. Parce qu'on pourrait parler aussi d'obligation dans le sens positif du terme. C'est ce que vous voyez ce que je veux dire. Hein ? J'admire beaucoup les mamans, puisqu'elles aiment leurs enfants, elles aiment leur mari, mais combien d'obligations, n'est-ce pas ? Les obligations, il y a des obligations normales de la vie de tous les jours, et souvent les mamans accomplissent de manière remarquable les obligations du foyer. Applause. C'est pas la fête des mères, hein, mais je vous aime beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a le côté positif, il y a quelque chose de normal, mais je vais me concentrer sur ce côté obligation de faire ou ne pas faire quelque chose, mais dans le sens contraignant. Hein. Et donc, on va se poser cette question. Pour Jean, pour lui, c'est très clair, la vie chrétienne n'est pas une vie d'obligation dans ce sens-là. Et pourquoi ? Pour au moins trois raisons. Dieu fait une œuvre surnaturelle dans le cœur de ses enfants, de ceux qui croient en lui. Il leur donne trois choses. Premièrement, une vie et une destinée nouvelles. Deuxièmement, un amour authentique pour lui et ses enfants. Et la suite est tout à fait... Le point 2 amène le point 3, un désir de manifester leur amour envers lui et aussi envers ses enfants, on pourrait ajouter. Allons-y. Premier point, une vie et une destinée nouvelle. Voici ce que Jean écrit au verset 1 du chapitre que j'ai pris tout à l'heure. Donc, 1 Jean, chapitre 5, verset 1. « Celui qui croit que Jésus est Christ » est né de Dieu. le verbe « croit » évoque une foi constante et souligne que les croyants authentiques gardent la foi tout au long de leur vie. Cette foi qui sauve n'est pas un simple acquiescement intellectuel, mais plutôt une consécration permanente et totale à Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit souvent ici, on ne peut pas dire « je suis croyant et non pratiquant ». C'est un non-sens biblique. La véritable foi porte toujours des fruits. Toujours. Sinon, il n'y a pas de foi. Croire que Jésus est le Christ, c'est croire qu'il est le Messie. C'est croire que Dieu est venu sur terre en chair et en os par Jésus pour nous sauver du péché et de l'enfer, afin de rétablir notre relation avec lui et nous offrir la vie éternelle. Celui qui croit que Jésus est le seul sauveur du péché et de l'enfer, reçoit la vie éternelle avec Dieu. J'explique autre chose. Vous savez, au début, nous naissons tous en Adam, qui est le premier homme créé par Dieu. Adam a péché contre Dieu. Donc, à cause de cela, nous, toute l'humanité, nous sommes tous dans le péché et condamnés à l'enfer. Un lieu, la Bible nous dit, on parle de lieu où, où il y aura d'amers regrets, grincements de dents, etc. Mais Dieu fait un miracle. Quand nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes nés en lui. Jésus-Christ n'a jamais péché. Par sa mort et sa résurrection, nous sommes libérés du péché et nous recevons une vie nouvelle. Nous ne sommes plus en Adam, condamnés à l'enfer, mais nous sommes maintenant en Jésus-Christ, libérés de l'enfer, pour vivre éternellement avec Dieu. Donc, comme disait notre cher, vous rappelez la personne qui a dit « mais comment on peut faire pour naître deux fois ? Je ne peux pas revenir dans le ventre de ma mère. » Nicodème ! Nicodème ! Notre cher Nicodème. Nous ne pouvons pas naître deux fois, mais il y a une naissance spirituelle que Dieu veut nous faire vivre, veut nous donner de vivre. C'est d'être libéré de cette destinée qui était pour nous l'enfer, pour aller en lui et naître en lui, avoir cette destinée nouvelle qui est d'avoir la vie éternelle, une relation rétablie avec Dieu. La vie nouvelle que nous recevons, c'est le Saint-Esprit, la présence de Dieu en nous qui nous transforme de l'intérieur. Et notre destinée nouvelle, c'est le paradis dans la présence de Dieu pour l'éternité. Alors, pourquoi la vie chrétienne n'est pas une vie d'obligation ? Parce que Dieu nous a donné donc une vie et une destinée nouvelle. Deuxièmement, un amour authentique pour lui et pour ses enfants. J'ai dit il y a quelques instants que la vie nouvelle que nous recevons, c'est le Saint-Esprit, la présence de Dieu en nous qui nous transforme de l'intérieur. Et un des fruits de cette transformation intérieure, c'est un amour authentique pour Dieu et pour ses enfants. Et bien plus pour les autres, nous verrons cela tout à l'heure. Lisons la suite donc du verset 1. Jean écrit, « Et celui qui aime le Père qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. » Ici, avant de parler d'amour pour les enfants de Dieu, Jean fait comprendre que le véritable croyant aime Dieu. Parlons maintenant de l'amour pour Dieu. La véritable foi en Dieu se démontre par notre amour pour lui. Si nous sommes nés de Dieu, si nous appartenons à Dieu, si le Saint-Esprit habite en nous, nous aimerons Dieu de manière authentique. C'est la preuve de sa présence. L'apôtre Paul a écrit ceci dans Romains chapitre 5, verset 5. « Notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion. » Et j'aime la suite. « Car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. » Waouh ! Comme de l'eau que l'on verse dans un verre, Dieu, par le Saint-Esprit qu'il nous a donné, a versé dans notre cœur, le cœur des croyants, son amour. Et forcément, s'il verse son amour en nous, cela va nous pousser à l'aimer de manière authentique. L'apôtre Paul, au début de la liste des fruits de l'esprit qu'il donne, il commence par... Il commence par quoi ? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Hein ? L'amour. Le véritable enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit ne peut pas ne pas aimer Dieu. Ça, ce n'est pas possible. Parlons maintenant de l'amour pour les enfants de Dieu. Je relis le verset 1, Jean écrit « Et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. » Jean écrit que si nous sommes nés de Dieu, nous aimons Dieu le Père. Nous l'avons vu tout à l'heure, donc il y a quelques instants. Et maintenant, voyons la suite, et aimer Dieu le Père nous pousse à aimer les enfants nés de lui. Ce n'est pas quelque chose que le véritable croyant a besoin de produire, mais c'est quelque chose que le Saint-Esprit fait en lui. Si nous sommes vraiment nés de Dieu, nous aurons un amour authentique et grandissant pour ceux qui aiment Dieu. Lisons le verset suivant, le verset 2. « Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. » J'en veux donner à ces lecteurs, on pourrait dire, à ces lecteurs croyants, une clé pour savoir s'ils aiment vraiment les enfants de Dieu. La clé est très simple, la voici. Vous aimez les enfants de Dieu si vous aimez Dieu et si vous obéissez à ses commandements. Aussi simple que cela. Donc pour savoir si notre amour pour les enfants de Dieu, pour ceux qui aiment Dieu, est bien présent et authentique, il faut regarder à notre amour et à notre obéissance envers Dieu. Où j'en suis là ? Parce que tout commence là. Jean montre qu'il y a un lien inséparable entre l'amour pour Dieu et l'amour pour ceux qui l'aiment. Et nous apprenons dans d'autres passages de la Bible que l'amour pour Dieu ne peut pas être séparé de l'amour pour les autres. Cela s'étend aux croyants, c'est pour l'amour envers les croyants, mais aussi l'amour envers les non-croyants. Mais il y a, l'apôtre Jean nous montre ici qu'il y a un amour particulier pour ceux qui aiment Dieu. Troisièmement, Dieu donne un désir de manifester leur amour envers lui. Au verset 3, j'en rappelle une vérité très importante, une vérité très importante que j'ai citée au tout début du message. Aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles. Alors, à la lumière de ce que nous avons vu jusqu'ici, nous sommes mieux éclairés pour comprendre ce que Jean a écrit. Si une personne met sa foi en Jésus comme seul sauveur du monde, il recevra une vie nouvelle par le Saint-Esprit et une nouvelle destinée, le paradis. Cette nouvelle vie se manifestera par un amour authentique et grandissant pour Dieu. Et aimer Dieu sera avant tout une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit qui poussera celui qui a placé sa foi en Jésus à lui obéir. Et il ne va pas obéir aux commandements en traînant les pieds, mais il va obéir à Dieu avec reconnaissance, joie et amour. Vous me suivez ? Ça va ? La reconnaissance envers Dieu pour son amour manifesté en Jésus-Christ et pour sa présence sera tellement forte que le croyant voudra exprimer avec force son amour pour lui. J'ouvre maintenant une parenthèse, une grosse parenthèse, sur les commandements. Les commandements de Dieu ne sont pas des choses déconnectées de notre réalité. Hein ? C'est un peu, voilà, il nous commande. Quoi. Il nous commande des trucs. Et ouais, il faut encore faire ci, il faut encore faire ça. C'est embêtant. Il nous met tout le temps des bâtons dans les roues. C'est complètement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit. Non. ce n'est pas un tas de rites là qui sont là, bon, il faut faire ceci, il faut faire cela, on ne sait pas pourquoi on le fait. Je vais vous citer les 10 commandements qui se trouvent dans Exode 20, d'accord ? Vous verrez qu'ils contribuent vraiment à notre bonheur. Je vais les citer de manière positive, d'accord ? On y va. Adorer Dieu seul, truc de base, hein ? Si Dieu est créateur, la logique, c'est de l'adorer. Adorer Dieu, deuxième, en le connaissant vraiment. Donc, pas juste avoir un Dieu que nous inventons, mais à connaître vraiment le Dieu que nous adorons, le véritable, celui qui a créé le ciel, terre, qui nous a créés. Troisièmement, respecter Dieu. Des trucs assez basiques. Et ensuite, quatre, se reposer et adorer Dieu. Dieu nous donne le privilège de pouvoir nous reposer. Et ceux qui ne se reposent pas, aujourd'hui, on parle de burn-out, dépression, etc. Des choses assez basiques. Respecter nos parents. Ouais. Être pour la vie, le pardon, la paix et la réconciliation. Être un mari ou une épouse fidèle. On veut tout ça. Gagner honnêtement sa vie. Être honnête et vivre dans le contentement. Si quelqu'un veut vivre le bonheur, il a juste à essayer de vivre ça, n'est-ce pas ? Bon, il y a le péché qui fait que ça rend les choses difficiles, on le sait. Ces 10 règles de vie contribuent vraiment à notre bonheur. Les commandements ne sont pas déconnectés de notre réalité. Et quand je parle de bonheur ici, je parle d'un bonheur qui ne dure pas qu'un temps, mais d'un bonheur qui non seulement peut se vivre sur terre, mais qui aussi est éternel, puisqu'il y a relation avec Dieu. Bien sûr, ces 10 règles n'enlèvent pas les difficultés de la vie, mais les mettre en place dans notre vie peut vraiment nous aider dans nos moments difficiles. Ces 10 commandements ne sont pas les seuls. Il y en a encore beaucoup. Mais pour nous aider, Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire pour nous. Il les a résumés. Et nous allons lire Matthieu, chapitre 22. Voici le résumé assez simple pour nous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans les deux commandements. Merci Jésus. Fin de citation. Enfin, ce que je viens de dire n'était pas dans la citation. C'est encore plus clair ici, les amis, que Dieu nous donne ses commandements pour notre bonheur. Car il n'y a pas de plus grand bonheur que d'aimer et d'être aimé. Vous êtes d'accord avec ça ? Ben c'est là. Et vous avez vu, il n'y a pas que juste Dieu et les autres. Il y a aussi moi dedans. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, il y a un amour propre, enfin un amour de soi, bien sûr un juste amour de soi, une juste amour de soi, enfin, je ne sais pas comment dire, c'est ça. Donc, amour de soi approprié et non plein d'orgueil, qui nous invite à être plein d'orgueil, à nous pavaner devant tout le monde et à chercher les applauses de tous. Hein. Mais voilà, c'est vraiment mettre l'équilibre dans tout ça. L'amour de Dieu avant tout. L'amour pour les autres, l'amour de soi. Il y a tellement d'épanouissement dans l'amour. Ces commandements ne sont pas du tout donnés pour gagner la faveur de Dieu, ni le paradis. Il est impossible d'atteindre par notre obéissance la sainteté de Dieu. Bien des gens essayent de gagner la faveur de Dieu en faisant des tas de jeûnes, en faisant des tas de rites, etc. Nous n'atteindrons jamais la perfection. Et la sainteté de Dieu, c'est impossible à l'atteindre. Sa pureté. Nous sommes nous-mêmes dans le péché et nous avons besoin d'être pardonnés par lui. Et rien de ce que nous pouvons faire, d'œuvres que nous pourrions faire, pourrait nous amener à mériter le pardon de Dieu. Ces commandements, les amis, nous sont donnés plutôt pour nous révéler qui il est et pour que nous apprenions à vivre une relation d'amour avec lui et avec les autres. quand nous sommes touchés par l'amour de Dieu, ses commandements sont pour nous l'occasion de lui dire notre reconnaissance. Les commandements de Dieu sont pour nous l'occasion de lui dire merci, lui dire notre amour envers lui, qui a gagné pour nous le paradis par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je ferme cette parenthèse sur les commandements. Je rappelle ce que nous avons vu ensemble depuis le début du message. Est-ce que la vie chrétienne est une vie d'obligation, dans le sens contraignant, pesant, etc. Non. Pourquoi ? Parce que Dieu fait une œuvre surnaturelle dans le cœur de ses enfants. Il leur donne une vie et une destinée nouvelle, un amour authentique pour lui et ses enfants, et un désir de manifester leur amour envers lui et envers les autres. Mais que dire des chrétiens qui vivent leur relation avec Dieu en traînant les pieds ? Et là, je ne parle pas de gens qui sont croyants, on ne sait pas trop. Je parle de ceux qui sont vraiment, qui ont vraiment reçu le Saint-Esprit, une vie et une destinée nouvelle, ainsi qu'un amour authentique pour Dieu et pour les enfants de Dieu, et qui ont normalement en eux un désir de manifester leur amour envers lui par leur obéissance. Que dire des véritables croyants qui semblent vivre une vie chrétienne d'obligation ? On les voit traîner les pieds là. Ah ouais, il faut aller à l'église ce matin. Ah mais il faut que je faut prier. Ah mais il faut lire ça. Faut lire la Bible, mais j'ai pas prié, j'ai pas lu ma Bible. Et puis après, quand il y a la Sainte Cène le dimanche, ah mais non, je vais pas la prendre parce que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Dieu ne peut pas m'accepter. Mais Dieu et ainsi de suite. Hein ? Est-ce qu'il y en a ce matin ? On est tous passés par là. Ça fait partie aussi du chemin du croyant qui parfois tombe. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Le verset suivant va nous aider à répondre à cette question. Jean nous dit au verset 4, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Qui en effet triomphe du monde ? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alors quand Jean parle du monde, il pense à deux choses. Il faut le décrire, puisqu'on ne comprendrait pas que ça veut dire quoi, triompher du monde. Hein, ça fait un peu bizarre quand même. Voici à quoi il pense. Sa première pensée, il pense à Satan et au mal, car il dit lui-même dans le même chapitre au verset 19 que le monde entier est au pouvoir du malin. Et il pense aussi, sa deuxième pensée, il pense à la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie qui définissent très bien une vie pleine de péchés. On trouve cela dans le chapitre 2 au verset 16. Donc, deux choses. Il pense au mal, à Satan, ses démons. Deuxièmement, il pense aussi à une vie de péché, pleine de péchés. Donc, Jean nous dit que notre foi en Jésus-Christ comme Fils de Dieu, non seulement nous donne la victoire sur Satan, ses démons et le mal, mais aussi sur le péché. Ok ? Mais les convoitises et l'orgueil font toujours partie du combat du chrétien. Et il est possible qu'un chrétien se laisse aller, ne se maintienne pas dans l'amour de Dieu et dans la sainteté. Et voici ce qu'un commentateur a dit à ce sujet. Il s'appelle Warren Wiersbe. Voici ce qu'il dit. C'est vrai, le monde tente le chrétien. Et quand je dis le monde, vous vous rappelez de quoi on parle ? Satan, le monde avec ses attraits. Le monde tente le chrétien par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et une fois que le monde aura pris le dessus dans l'un de ces domaines, le croyant s'en rendra compte. Et regardez la suite. Il cessera de prendre plaisir à l'amour du Père et n'aura plus envie de faire sa volonté. La Bible deviendra ennuyeuse et la prière une pénible corvée. Même l'amitié chrétienne lui paraîtra vide et décevante. Ce n'est certes pas la faute des autres, c'est la faute de son cœur trop attaché au monde. Fin de citation. Voici un des dangers qui guette les enfants de Dieu. Se laisser aller au péché, laisser le péché nous dominer. Quand nous commençons à entrer dans cela, il y a danger. Et Jésus lui-même, quand il donne la parabole du semeur, il dit qu'il y a aussi ceux qui sont pris par les épreuves, les soucis de la vie, et on pourrait dire bien d'autres choses encore. Voilà pourquoi nous devons sans cesse nous nourrir de la grâce de Dieu. J'aimerais finir avec ce point tellement important pour nous. Nourrissons-nous de la grâce de Dieu. C'est un des sujets pour lesquels nous avons prié dans l'une de nos soirées de prière la semaine passée. Je vais citer le texte. Priez pour que nous apprenions de mieux en mieux à accueillir la grâce de Dieu dans nos vies et nous réjouir de son travail en nous. Et que cette grâce reçue nous fasse agir concrètement. Ça veut dire, j'accueille sans cesse cette grâce. J'avais redonné ce chant, « Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. » On a envie de continuer, hein. On va s'arrêter. Mais vous entendez cela ? La personne qui a écrit cela a donné une pensée tellement forte. C'est une clé pour la vie chrétienne. Nous devons sans cesse nous redire et demander aux autres de nous redire l'histoire de l'amour de Jésus. Parce que quand nous sommes constamment à se redire soi-même et à avoir les autres qui nous le redisent, eh bien ça fortifie notre foi. Ça nous maintient dans l'amour et la grâce de Dieu. Nous avons besoin sans cesse d'accueillir cette grâce encore et encore aujourd'hui. Pensez que l'évangile, la grâce de Dieu, c'était quand j'étais jeune chrétien, j'ai commencé, j'avais besoin de l'amour de Jésus, j'ai compris qu'il m'a sauvé et après je me suis fait baptiser. Ensuite, j'ai mis cette histoire au placard et maintenant il faut faire la suite. Il faut prier et bien il faut faire... Non, les amis, cette grâce, nous devons continuer à revenir, à nous imprégner de cette grâce, à nous laisser toucher par cette grâce. Vous pensez que c'est pourquoi que Jésus a voulu que nous prenions le repas du Seigneur ? Ce repas, le pain et le jus de raisin que nous prenons assez régulièrement les dimanches. On pourrait se dire, mais c'est bizarre. Jésus veut qu'on se rappelle de sa mort. Il y a un problème, parce que s'il y a bien des gens qui se rappellent de sa mort, c'est bien nous. En tout cas, si nous sommes croyants. Ou nous pensons aussi à l'apôtre Paul quand il a dit à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ !» Alors j'imagine Timothée qui reçoit la lettre et qui voit écrit « Souviens-toi de Jésus-Christ !» Alors je ne sais pas comment Timothée a réagi, mais moi tout de suite je dirais « Mais Paul, j'ai passé plusieurs temps où on a proclamé l'évangile, tu es allé en prison, on a beaucoup souffert, tu m'as parlé de Jésus-Christ tout le temps !» tu m'as parlé de Jésus, mais tout le temps. Et tu m'écris, souviens-toi de Jésus-Christ. Mais s'il y a bien une chose que je vais retenir, c'est bien Jésus-Christ. Mais il y a une clé ici, les amis. C'est que nous souvenir de Jésus-Christ, au point que cela nous touche et nous transforme, ça, c'est ce qui change la vie. Ce n'est pas juste se souvenir un jour comme ça, mais c'est de nous imprégner de qui est Christ et ce qu'il a fait. Et de le laisser nous transformer, continuer à le louer, l'adorer pour ce qu'il a fait. Est-ce que le sacrifice de Christ continue à vous toucher et à vous bouleverser au quotidien ? Est-ce que sa grâce, à chaque fois que vous vous approchez de ce message, est-ce que vous êtes « Ah ! Il y en a plus !» Cette grâce est bien plus immense que je ne le pensais. La croissance dans la vie chrétienne, c'est comprendre toujours plus la grâce de Dieu. C'est comprendre toujours plus l'amour de Dieu. Et un chrétien, après 30 ans de vie chrétienne, doit dire, je comprenais l'amour de Dieu avant, mais l'amour de Dieu, pour moi, était comme ça. Enfin, je le voyais comme ça. Mais aujourd'hui, je me dis, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, c'est bien plus grand que je ne le pensais. Sa grâce est bien plus grande que je ne le pensais. La croissance dans la vie chrétienne, c'est ça. C'est un message auquel nous ne nous lassons pas de ce message, mais il continue à nous transformer, accueillir la grâce de Dieu au point que ça nous transforme. Les amis, gardez cela en tête. Nourrissons-nous de la grâce de Dieu. S'il y a bien une chose que je veux que vous reteniez du message de ce matin, c'est cela. Nourrissons-nous de la grâce de Dieu. Nous en avons tant et tant besoin. Comment ? Je vais vous donner plusieurs impératifs là. Ce n'est pas des obligations. Mais c'est nous plonger dans l'amour de Dieu. Louons sans cesse notre Dieu pour Jésus-Christ, mort et ressuscité. Je me rappellerai toujours de ce frère qui s'est fait baptiser en même temps que moi. À chaque fois qu'il priait, il commençait toujours sa prière ainsi. Merci Jésus-Christ pour ta mort et ta résurrection. La première chose qui sortait de sa bouche, c'était ça. C'est un exemple à suivre. Nous rappeler tout de suite sans cesse son amour. Ensuite, rappelons-nous sans cesse, oui, tout simplement, à quel point nous sommes aimés de Dieu. De là, au lieu de vite ouvrir la Bible et commencer à lire, prenez le temps de vous reposer et de dire, mais je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Et cette parole que je vais ouvrir, je l'ouvre dans ce climat d'amour d'un Dieu qui m'aime et qui a donné sa vie. Rappelons-nous aussi que nous ne pouvons rien faire pour être plus acceptés et aimés de Dieu. Je demande la prière au pasteur, comme ça la prière du pasteur, l'accès sera plus rapide. Je n'ai pas plus d'accès que vous. Comme j'ai jeûné, la prière va être plus, Dieu va plus entendre ma prière. J'ai mené une semaine extraordinaire. J'ai pris soin de mes enfants. J'ai fait la vaisselle pendant toute la semaine pour ma femme. Elle a été heureuse. C'est bon, maintenant je vais prier. Dieu va agir. Seule la grâce de Dieu, les amis, vous donne accès à la présence de Dieu et fait que Dieu va répondre à vos prières. Dieu ne va pas plus vous accepter ou plus vous aimer parce que vous avez fait quelque chose. Vous ne pouvez rien faire. Christ a tout accompli. Vivons dans une obéissance qui a pour mobile l'amour et la gratitude. Dieu n'a aucun plaisir quand vous venez ici, que vous chantez et que, en fait, au fond, ce n'est pas par amour pour lui. Ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est votre motivation. Mais j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur ? Dieu veut que tout ce que nous faisons soit fait par amour et reconnaissance envers lui. La Bible n'est pas une liste de choses à faire, et je le répète, ou à ne pas faire, mais c'est un livre qui nous révèle avant tout qui est Dieu et son plan de salut pour l'humanité. Alors faisons de la lecture de la parole de Dieu un tête-à-tête avec lui, un temps de relation avec lui qui transforme notre vie. Autre chose, voyons les commandements, je l'ai dit tout à l'heure, comme des règles de vie qui contribuent à notre bonheur. Ça me fait penser à quand nous sommes ados, hein, les parents nous disent « ne fais pas ci, ne fais pas ça, nanana ». Mais quand on devient adulte, on se rend compte que « ah ». Surtout quand on est parent, on se dit « ah, je comprends mieux ». On est un peu ado aussi dans notre vie chrétienne, hein, quand on est en train de traîner pied parce que Dieu nous demande quelque chose alors que nous oublions que c'est pour notre bien et cela contribue à notre bonheur. Que tout ce que Dieu attend de nous soit pour nous l'occasion de lui exprimer avec force notre amour et notre reconnaissance. Ça doit être ce qui doit nous pousser à... quand nous voyons que Dieu attend de nous quelque chose, nous devons dire « ah ! Voilà une occasion de lui dire « je t'aime ». Voilà une occasion pour moi de lui dire ma reconnaissance. Et enfin, que l'obéissance soit pour nous un désir de lui faire plaisir. Si nous aimons quelqu'un, nous voulons lui faire plaisir. Notre véritable amour se verra ainsi. Je finis avec un des versets qui me touche le plus dans la Bible. Ce verset me touchait tellement que c'était notre verset de mariage, Fanny et moi. C'est celui-ci. Et c'est toujours l'apôtre Jean, nous aimons. parce que Dieu nous a aimés le premier. Je vais prier. Dieu notre Père, la vie chrétienne n'est pas une vie d'obligation contraignante, mais une relation d'amour avec Dieu, avec toi. Une relation d'amour avec toi qui est venu par Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité. Grâce à ton œuvre à la croix, par notre foi en toi, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Et pour nous qui te connaissons, nous avons reçu le Saint-Esprit, une vie et une destinée nouvelle, un amour authentique et grandissant pour toi et pour les autres. Et enfin, nous avons reçu un désir toujours plus grand de manifester notre amour envers toi. Merci parce que par Jésus-Christ, nous pouvons sans cesse expérimenter ton pardon, ta grâce, ton bonheur, ta joie, ta paix. Nous te prions pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, qu'ils répondent oui à ton amour et qu'ils te rencontrent et jouissent pour toujours de ta présence. Nous qui t'appartenons, nous te demandons ta protection sur nos vies. Nous serons encore et encore attaqués par l'orgueil, les convoitises, les difficultés, les persécutions, les soucis de la vie et bien d'autres choses, et par Satan et ses démons. Garde-nous toujours plus attachés à toi. Nous savons que lorsque notre soif de bonheur est satisfaite par Christ, le péché perce tout son attrait. Alors aide-nous, jour après jour, à trouver en toi tout ce que notre cœur désire. Apprends-nous à nous nourrir sans cesse de ta grâce pour tenir ferme en toi face aux épreuves et aux tentations de cette vie. Encore merci infiniment pour ton immense amour et ton désir que nous vivions une relation toujours plus profonde et épanouissante avec toi et les uns avec les autres. Nous t'aimons, notre Dieu.